Bonjour Jean-Louis Bourlange.
Bonjour.
Le président américain a tenu hier à la tribune de l'Assemblée générale des Nations unies un discours très offensif et même franchement menaçant, particulièrement à l'égard de la Corée du Nord, en qualifiant entre autres le leader coréen d'homme fusée en mission suicide. Si les États-Unis, a-t-il dit, sont menacés, ils n'auront pas d'autre choix que de détruire totalement la Corée du Nord. Est-ce qu'il faut prendre, selon vous, cette menace au pied de la lettre ?
Moi, je ne crois pas que Monsieur Trump n'ait ni l'envie ni les moyens de déchaîner une catastrophe mondiale absolue, d'entraîner des dizaines, des centaines de milliers, voire des millions de morts en Corée du Sud. En revanche, on voit bien que c'est un homme totalement pulsionnel, qui ne résiste pas à ses pulsions, à son agressivité, et c'est quand même extrêmement inquiétant. Trump est quand même l'homme qui aura réussi à faire de Steve Bannon, son conseiller suprématiste d'extrême droite, un homme qui aura l'air modéré à côté de lui. C'est vraiment préoccupant d'avoir un si mauvais contrôle de son discours, même si je pense qu'effectivement, au bout du compte, Monsieur Trump n'ira pas, ne mettra pas ses menaces à exécution.
Vous dites qu'il n'aurait pas les moyens.
Affaiblit la position américaine.
Vous dites qu'il n'aurait pas les moyens de le faire. Vous parlez de moyens financiers, vous parlez de moyens militaires. Il a dit hier, l'armée américaine va bientôt devenir plus forte que jamais.
Oui, mais bien sûr, de toute façon, c'est toujours comme ça que Monsieur Trump se situe. C'est toujours plus, etc. Mais en réalité, gagner une guerre contre la Corée du Nord, à quel prix ? Est-ce qu'il a les moyens de détruire la Corée du Nord sans que la Corée du Sud soit massivement détruite, sans qu'il y ait des millions de morts autour de Séoul ? Tous les experts américains, y compris les siens, y compris Mattis, y compris le secrétaire d'État, disent que non. Donc il faut arrêter. Il y a quelque chose de pathétique dans cette escalade verbale qui est le masque d'une impuissance réelle. Ce qui ne veut pas dire effectivement que les États-Unis ne seront pas, et de très loin, la première puissance mondiale, en matière militaire en particulier.
Autre bête noire de Donald Trump, l'Iran. L'accord sur le nucléaire avec l'Iran est le pire que les États-Unis aient jamais conclu, a-t-il dit hier. Une honte pour les États-Unis. Nous ne pouvons pas respecter un accord qui autorise au final le développement d'un programme nucléaire. Quelles conséquences, selon vous, aurait l'annulation de cet accord ?
Mais là aussi, la surenchère verbale ne mène à rien. On sait très bien que la situation est difficile. Les Iraniens sont infiniment plus raisonnables que les Coréens. Ils ont à un moment arbitré en faveur de leur développement économique, en faveur du rétablissement de leurs relations normales avec la communauté économique mondiale, et ils ont payé le prix, et tout le monde dit qu'ils jouent à peu près le jeu des accords qui sont passés. De toute manière, nous n'avions aucune autre option. Là encore, militairement, nous avions les Américains avaient le pouvoir de retarder l'accession des Iraniens à des armes nucléaires stratégiques. Ils n'avaient pas la possibilité de l'empêcher. C'était ça la situation, et ça redeviendrait la situation si on enfermait à nouveau l'Iran dans une attitude isolationniste de surenchère suicidaire. Donc c'est absurde. D'une façon générale, je crois que ce qu'a dit Emmanuel Macron par rapport à Trump est juste. Nous sommes dans un monde qui est profondément multilatéral. Nous sommes condamnés à avoir des attitudes coopératives les uns avec les autres ou à mourir. Alors, les attitudes coopératives, c'est pas une garantie que ça marche. Mm-hmm. C'est toujours très difficile de se mettre d'accord, surtout avec des États impossibles comme la Corée du Nord. Et je crois que là, on n'arrivera à rien en termes d'accord avec la Corée du Nord. Mais ça n'est pas une raison pour brandir des menaces imaginaires. Je crois que cette exigence multilatérale, elle indispose profondément Trump, qui reste psychologiquement un enfant. Et un enfant, c'est-à-dire quelqu'un qui, pour qui rien n'existe, en dehors de lui-même. Il y a une immaturité psychologique chez le président des États-Unis, qui ne veut pas dire du tout qu'il soit idiot, hein, c'est pas ça que je dis, mais il y a une immaturité psychologique qui est très préoccupante. qui le conduit à cultiver un égocentrisme agressif qui est très exactement le contraire de ce dont le monde a besoin aujourd'hui.
Alors vous avez évoqué le discours d'Emmanuel Macron qui en effet a défendu face aux propos de Donald Trump qui a rappelé l'Amérique d'abord. Emmanuel Macron qui donc lui a défendu les vertus du multilatéralisme. C'est par la Syrie qu'il a entamé son propos pour défendre un règlement politique de la crise. Donnons-nous, a-t-il dit, donnons-nous les moyens réels d'enclencher les négociations. Est-ce que ça veut dire que ça n'a pas été fait jusqu'à maintenant ?
Je crois qu'on s'est enfermé, du temps du président Hollande, la France en particulier, s'est enfermée dans des attitudes qui étaient totalement contradictoires. Parce que d'un côté, nous ne participions pas réellement nous ne soutenions pas réellement la révolte contre le régime syrien. Nous étions très hésitants. De l'autre, nous ne recherchions pas véritablement un accord avec les Russes. Troisièmement, nous mettions un préalable qui était un préalable que nous ne pouvions pas voir respecté, qui était le départ de Bachar el-Assad. Et au milieu de tout ça, on se disait favorable à une solution non militaire, à une solution négociée. Donc il faut choisir. Soit on déchaînait le feu du ciel contre le régime syrien. Je n'ai jamais été partisan de cette solution, parce que je crois simplement que pour les Européens en tout cas, nous n'en avons pas les moyens. Nous n'avons pas les moyens. C'est les socialistes à un moment croyaient, Fabius, etc., croyaient que, en claquant dans son doigt, on utilise les moyens militaires et que c'est résolu. En réalité, la guerre, c'est quelque chose de difficile, qui demande des objectifs précis, qui cause d'énormes dégâts, et on n'a pas les moyens de le faire. À partir du moment où on est dans cette situation, il faut effectivement négocier, et négocier réellement, ça veut dire donner aux Russes, autant il faut être très ferme avec les Russes sur le front européen, l'Ukraine, etc., mais sur le front, donner aux Russes les moyens de participer avec les États-Unis et avec l'Europe à une gestion ordonnée d'un Moyen-Orient en feu.
Comment vous expliquez, Jean-Louis Bourlange, la relation qui semble cordiale, voire chaleureuse, entre Donald Trump et Emmanuel Macron, compte tenu de tous les désaccords, et on n'a pas parlé de l'accord climatique de Paris, par exemple. Mais comment on explique cette relation ?
Je crois qu'Emmanuel Macron est vraiment ce qu'on appelait en politologie un leader de charme. Il estime qu'il a toujours en face d'un interlocuteur, fut-il en désaccord avec lui, ça a été la même chose avec Poutine, il faut éliminer tout ce qui relève du ressentiment personnel, il faut créer le climat, il faut parler, il faut essayer de séduire. Alors, ça ne mène pas forcément à un accord, mais c'est un préalable. Et tactiquement, je comprends bien sur quoi Macron s'appuie. D'une part, il met quand même un coin vis-à-vis des Britanniques, parce que les Britanniques étaient les alliés privilégiés des États-Unis. Avec le Brexit, il y a une relation qui se... les Britanniques deviennent moins utiles aux Américains qu'ils ne l'ont été, et donc il est bon de dialoguer avec les États-Unis et de montrer que le Royaume-Uni n'est pas la seule carte possible. Même chose avec l'Allemagne. On assiste effectivement à un durcissement très profond, dû essentiellement à Trump, des relations entre l'Allemagne et les États-Unis, une sorte de troisième guerre mondiale froide, si je puis dire. Ça a été très sensible. Il n'est pas question de relâcher la relation avec l'Allemagne, loin de là, mais il est bon d'avoir une sorte d'intermédiaire, de go-between, sécurise un peu et apaise les relations. Donc il y a une fenêtre, non pas de tir, mais de coopération tactique, malgré des désaccords qui structurels, très profonds, et qui ne sont en rien masqués. Parce que Trump assume clairement les désaccords sur tous les... notamment sur le climat et
Emmanuel Macron aussi.
Oui, Emmanuel Macron, oui.
Oui,
voilà, c'est ce que je vais vous parler. Je vais faire un lapsus.
Merci Jean-Louis Bourlange, bonne journée.